Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Strouche-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous discutons de Darwin aujourd'hui avant de recevoir Cécile Philippe et Nicolas Marquès de l'Institut économique Molinari. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Notre sujet du jour, Darwin aujourd'hui.
Jusqu'au 18 juillet se tient au musée d'Orsay l'exposition « Les origines du monde » qui est organisée en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. C'est une exposition qui met en scène, là je reprends les mots de notre collègue du Point Sophie Pujas, ce moment où la théorie de l'évolution interroge la place de l'homme au sein de la nature. Donc si nous avons voulu partir de cette actualité, ce n'est pas seulement parce que Le Point est partenaire de cette exposition, mais aussi et surtout parce que cette exposition et l'époque dans laquelle elle nous replonge nous interroge également sur ce que la France a pu faire du naturalisme depuis. Cette époque, donc c'était celle du bouillonnement intellectuel qui était proprement transdisciplinaire, qui a eu lieu en Europe dans le sillage des œuvres de Darwin, notamment les deux principales, qui est L'origine des espèces, qui est publiée en 1859, qui est traduite en français par Clémence Royer dès 1862 chez Guillaumin et Victor Masson. Et ensuite, l'autre grande œuvre de Darwin, c'est La descendance de l'homme et la sélection sexuelle, version originale 1871, version française par Jean-Jacques Molinier en 1872, paru de mémoire à titre posthume du traducteur parce qu'il est mort en 1872. Donc qu'est-ce que le naturalisme et en quoi était-il plus fécond qu'aujourd'hui ? Donc pour le résumer à gros traits, c'est l'idée que si la biologie n'explique pas tout ce qui touche à l'humain, sans recours à la biologie, on n'explique rien. Et quant à sa fécondité, on a en fait un gros indice rien que dans la rapidité des traductions des œuvres de Darwin, et ce qui nous indique par contraste la façon dont l'esprit naturaliste semble s'être évanoui d'Europe et surtout de France depuis cet âge d'or que retrace l'exposition. Alors oui, certes, on peut dire que ça n'a pas été si rapide que ça, parce qu'en fait la première traduction de l'origine des espèces qui a été faite par Clémence Royer, en fait, cette traductrice avait arrangé à Darwin à sa sauce très darwiniste social, pour ne pas dire eugéniste. Et d'ailleurs, Darwin lui-même a proposé à l'éditeur français Reinwald, qui allait devenir et rester pendant longtemps à la maison de son œuvre intégrale, de virer Royer et de prendre Moulinier, donc, qui meurt donc en 72, et qui sera remplacé par Edmond Barbier pour traduire la sixième édition de l'origine, celle que Darwin considérait comme définitive, et elle qui sort en France en 1873. Donc toutes ces nuances mises à part, oui, je pense vraiment qu'on a perdu intellectuellement quelque chose depuis cette époque, et c'est une lacune d'autant plus cuisante, je dirais, car évidemment le darwinisme ne s'est pas arrêté à Darwin, et s'est extraordinairement développé et renforcé jusqu'à devenir le paradigme scientifique à la fois le plus parcimonieux et le plus élégant pour comprendre le vivant dont nous faisons bien évidemment partie intégrante. Et à mes yeux, cet esprit naturaliste ne pourrait pas être mieux représenté par Gabriel von Max, dont le tableau Héloïse et Abélard constitue l'affiche de l'exposition. Donc ce Gabriel von Max est un peintre allemand qui a été formé à Vienne et qui avait vraiment intégré le naturalisme dans son quotidien, vu qu'il vivait avec une colonie de singes qu'il prenait pour modèle afin de souligner leur humanité, et là totalement en accord avec ce que Darwin dit avec La descendance de l'homme, qui est un texte qui est aussi traduit par La filiation de l'homme. Moi j'aime ni la descendance ni la filiation, parce que il y a un sous-entendu temporel, c'est-à-dire c'est ce qui vient après ou ce qui vient avant l'homme, alors que pour moi un meilleur terme, ça serait la lignée, justement voir tout ce qui englobe, un terme qui est à mon sens plus englobant. Donc voilà, quand on s'arrête sur von Max, qui était en fait donc pas du tout un scientifique et encore moins un biologiste de formation, quand on voit la facilité, je dirais même l'évidence avec laquelle il a embrassé le naturalisme, on voit en fait en creux, en contraste, tout ce qu'on a perdu. Car aujourd'hui, et on est évidemment toutes les deux très bien placées pour le dire, vu qu'on suit justement cette lignée naturaliste dans nos travaux respectifs, Cette approche est souvent, donc, au mieux, elle est ignorée, au pire, elle est moquée et conspuée. Et pour ma part, en tout cas, je pense que toi aussi, ça reste un énorme motif de perplexité depuis que le darwinisme est entré dans ma vie, c'est-à-dire il y a quasiment 20 ans jour pour jour. Donc voilà, de ce propos liminaire qui est foisonnant, pour ne pas dire bordélique. mais bon, faut prendre ça comme un hommage à la sélection naturelle. Je te laisse poursuivre.
Écoute, Peggy, ma excellente introduction. C'est difficile d'enchaîner. Et bon, je ne nous placerai pas sur le même niveau sur ce sujet quand même, parce que tu connais bien mieux que moi ces questions. Mais c'est vrai que j'ai commencé à m'y intéresser il y a juste quelques années. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être une bonne entrée en matière. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, et plus généralement à la sélection naturelle et à la sélection sexuelle, et bien un petit peu par hasard, quand je m'intéressais aux différences entre hommes et femmes. Et parce que j'avais en tête l'idée d'un livre qui est ensuite devenu un vrai livre et qui s'appelle « Les hommes sont-ils obsolètes ?». Et je regardais des travaux de sociologie sur les comportements, la distinction des comportements entre hommes et femmes, qui ramenaient toutes les différences à des questions sociales et, comme on dit en sociologie, de socialisation, c'est-à-dire l'ensemble des influences qui existent dans l'environnement et qui font ce que nous sommes. Et en fait, j'avais une sorte de scepticisme un peu instinctif à l'égard de cette théorie, tout simplement parce que j'ai des yeux pour voir et un corps également, et que j'ai l'impression qu'il y avait des différences qui avaient peut-être une autre origine. Et c'est là que je me suis rappelé un livre que j'avais lu il y a quelques années de Susan Pinker, dont le titre est « The Sexual Paradox », donc le paradoxe sexuel, et où elle expose en fait... quelles sont les différences naturelles entre les hommes et les femmes, à quel niveau elles se situent et d'où elles viennent, et parmi les explications possibles, eh bien, il y a le paradigme de l'évolution. Et j'avais été absolument bouleversée par ce livre, parce que j'avais l'impression qu'il me décrivait vraiment le monde dans lequel nous vivons, et que je trouvais enfin une explication à un certain nombre de phénomènes qui étaient très élégantes, comme tu l'as dit, Peggy, et qui finalement beaucoup plus satisfaisante que la pure explication par la socialisation. Alors, on pourra peut-être revenir tout à l'heure à la nature de ces différences, mais mon propos ici, c'était surtout de souligner le fait que dans le cursus scolaire universitaire français, on n'apprend pas ces choses. En fait, on parle de Darwin quand on fait de la biologie et qu'on parle de l'évolution des espèces, mais on n'inclut pas Darwin dans la philosophie, donc dans une vision beaucoup plus large, en fait, de l'être humain. Et ce qui fait que, finalement, toutes les questions vraiment fondamentales qu'il peut nous aider à régler ne sont jamais regardées selon ce prisme. Et j'en arrive aussi à un domaine, en fait, qui est totalement non-darwinien en France, hein, parce que là, je parle de la France, c'est la psychologie. En fait, il y a toute une branche de la psychologie que tu connais très bien, Peggy, qui est qu'on pourrait appeler psychologie évolutionnaire ou comportementale, ou même qu'on pourrait inclure dans l'anthropologie évolutionnaire. Enfin, voilà, il y a plusieurs... Il y a plusieurs termes pour la décrire. Et donc, c'est une psychologie qui s'intéresse au paradigme évolutionnaire pour expliquer un certain nombre de nos comportements. Eh bien, c'est pareil en France. Elle n'existe pas, elle n'est pas discutée. Et pourquoi ? Moi, mon interprétation, elle est assez simple, c'est qu'en fait, il y a une telle domination de la psychanalyse en France qu'on ne veut pas voir d'autres explications que celle-ci. Et ce qui est très frappant, en fait, avec la psychanalyse, c'est qu'il y a vraiment très, très peu de preuves scientifiques, hein, de la véracité de ces théories. Alors que si on se tourne du côté des théories évolutionnaires, il y a quand même beaucoup plus de tentatives, en tout cas, de prouver un certain nombre d'hypothèses. Et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup plus de véracité et beaucoup plus de potentiel explicatif du côté de cette théorie. Donc je ne sais pas si tu partages cette analyse, Peggy. Je me doute que, enfin, tu ne seras certainement pas en désaccord, mais je voulais avoir ton point de vue là-dessus.
Ah oui, je suis assez d'accord sur le fait que la psychanalyse occupe tout, même si, heureusement, ça perd quand même de l'influence depuis, je dirais, une petite dizaine d'années. Notamment, en fait, ça a commencé à perdre de l'influence avec tous les scandales qu'il y a eu autour de l'autisme. Les traitements, entre guillemets, parce que ce n'est pas du tout des traitements psychanalytiques de l'autisme, sont atroces et encore mettre la France en retard, un énorme retard par rapport à d'autres pays. Donc oui, il y a ce problème-là. J'en verrai un autre qui pourrait sembler trivial en fait, mais qui, je pense, est quand même très important. C'est en fait le problème de l'anglais, parce qu'en fait voilà, c'est la barrière de la langue. C'est, en fait, toutes les études darwiniennes, mais comme dire, ça c'est général à la science. Hein, l'anglais c'est la lingua franca de la science. Donc toutes les études darwiniennes, qu'elles soient biologiques ou un peu extra-biologiques, comme tu as mentionné la psychologie évolutionnaire, qu'on appelle aussi évopsie, donc se font en anglais. Et moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable de voir comment, même à des hauts niveaux universitaires, les gens ne le lisent pas couramment. Et ça, cette barrière linguistique, en fait, se renforce par un espèce... En fait, je pense que c'est une justification a posteriori. Se renforce par un chauvinisme linguistique qui est là encore assez franco-spécifique. Donc, il y a diverses justifications. Ça va de l'anglais c'est élitiste, au complexe d'Astérix, ne pas parler anglais, c'est résister à la mondialisation, aux influences américaines, etc. Ce qui fait en fait que, basiquement, il y a relativement peu de monde qui est à même d'avoir accès aux sources primaires, en fait. Et ensuite, c'est là aussi qu'intervient une rationalisation a posteriori. Quoi de mieux pour soigner son complexe d'infériorité, de dire bah voilà, c'est de la merde, face à des trucs en fait qu'on n'est même pas en capacité de comprendre. Cela étant dit, je voudrais quand même rappeler que le darwinisme en fait ne passe pas bien en général, et en particulier quand il est appliqué à l'humain. Et ça, effectivement, c'est un problème qui est très accentué en France, mais qui est quand même fort partout ailleurs. On peut se rappeler que Edward Osborne Wilson, qui est un chercheur dont l'excellence aujourd'hui n'est plus à démontrer, a sans doute été le seul scientifique de l'histoire moderne à être physiquement agressé par ses idées, par des activistes politiques. Alors après, voilà, on peut dire oui, c'est pas pire comme agression. En fait, il était à un colloque, il y a des gens qui sont montés à la tribune et qui lui ont renversé de l'eau froide sur la tête. C'est quand même très significatif. Et justement, je voulais quand même rappeler, c'est pas pour trouver des excuses à la France, mais pour dire, voilà, faut pas croire qu'ailleurs, c'est un tapis de rose, même si effectivement, la France, c'est pire que tout. Et la dernière raison que je voulais souligner, c'est une raison en fait qui touche en fait directement à l'histoire des idées. En fait, en France, avec Lamarck et Bernanette Saint-Pierre, on a été relativement en avance sur la pensée naturaliste. Donc voilà, Lamarck, c'est celui qui a... C'était 50 ans avant Darwin. Il a inspiré Darwin. C'est lui le premier qui a dit que toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou de quelques ancêtres communs. Mais le problème, c'est que Lamarck et aussi Bernardin de Saint-Pierre, qui est un peu l'ancêtre du créationnisme, Bernard Saint-Pierre, il a cette formule que j'adore, c'est il disait « Le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille. La citrouille, étant plus grosse, peut être mangée avec les voisins. » C'est tout l'esprit français de c'est pas de l'évolutionnisme, enfin, je veux dire, c'est cette espèce voilà, de... Comment dire, il y a une intuition qui est bonne, en fait. C'est l'évolution au cours du temps, des espèces vivantes et tout. Mais il faut qu'il rajoute effectivement ce finalisme. Et je pense justement qu'au niveau de l'histoire des idées, en fait, la France était peut-être la moins près des nations européennes à admettre, et même, c'est même pas admettre, en fait, à concevoir l'anti-finalisme de Darwin. Et que ça, voilà, c'est pas un genre de retard qu'on rattrape facilement, quoi.
Mais tu as tout à fait raison de souligner que, en fait, Darwin peut être critiqué dans le monde entier et l'est. Et d'ailleurs, en fait, ce qui se passe, c'est que les débats qui ont eu lieu aujourd'hui, hein, à l'heure des 150 ans de l'apparition donc de la lignée de l'homme, hein, pour reprendre ton excellente traduction, sont essentiellement...
qui n'est pas encore officiel.
Non, mais c'est vraiment excellent. Ces débats ont essentiellement lieu dans l'anglosphère, parce que comme nous, on ne lit pas Darwin, on n'en parle pas en France, on n'en est même pas au niveau du débat, y compris du débat de mauvaise foi. foi. Et en fait, le débat de mauvaise foi qui a lieu en ce moment, hein, eh bien, il est, je trouve, assez bien représenté par un éditorial qui a été publié par la revue Science, où un anthropologue qui s'appelle Agustin Fuentes en fait revient sur l'influence de Darwin, l'influence de l'ouvrage, et évidemment n'oublie pas de souligner que Darwin était quand même quelqu'un de raciste et de sexiste. Et que pour toutes ces raisons, il faut le prendre avec des pincettes. Et bien sûr, là, on retrouve le débat, les débats absolument classiques de notre temps, hein, qui sont ce que le philosophe Nassim Nicholas Taleb appelle la moralisation rétrospective, qui est d'appliquer à des auteurs du passé qui vivaient dans un contexte complètement différent, des critères moraux que nous employons aujourd'hui. Et en fait, malheureusement, faire ça avec Darwin ne peut que nuire à son appréciation en France, parce que si jamais les Français ont l'écho de ce genre de débat, eh bien, je pense qu'ils apprécieraient encore moins, a priori, le grand scientifique. Alors, pour en revenir aux questions de racisme et de sexisme, je pense que je te laisserai sûrement détailler, parce que je sais que tu connais très bien le sujet, et que tu pourras peut-être même nous citer des passages. Il est évident que chez Darwin, les préjugés de son temps s'expriment, mais je pense que ce serait complètement faux de conclure que parce que, par exemple, il caractérisait les femmes comme des êtres un peu plus fragiles ou peut-être intellectuellement moins développés que les hommes, ça voudrait dire que sa théorie de la sélection naturelle et sexuelle est fausse. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a cette confusion, en fait, qui est maintenue aujourd'hui, et donc plutôt du côté anglophone, sur ce sujet, parce qu'on considère que c'est toujours explosif d'établir qu'il y ait des différences, alors à nouveau, hein, entre hommes et femmes, qui seraient naturellement expliquées. Donc, voilà, moi, je pense que ça ne... À mon avis, Darwin est tellement... est une figure tellement puissante qu'à mon avis, ce genre de débat ne peut pas tellement lui nuire, parce que sa pensée et tout ce qu'il a donné ensuite, tout ce à quoi elle a donné lieu ensuite, sont bien supérieurs à tous ces débats. Mais c'est en même temps assez déprimant de voir que lui aussi, en fait, est la cible de ces mêmes accusations.
Bah, j'aimerais partager ton optimisme. Je ne sais pas si je le partage, je suspends mon jugement. Et puis,
je suis optimiste aujourd'hui. C'est bien. Faut en profiter.
C'est ce jour du mois. ou du trimestre, on ne sait pas. Pour te décevoir et sans doute aussi décevoir nos auditeurs, je n'ai pas révisé, et comme j'ai une très mauvaise mémoire, je n'ai pas de citation à proposer d'Awin, mais effectivement, oui, il était ce qu'on appelle aujourd'hui sexiste, il était raciste. Non seulement il disait que les femmes étaient inférieures intellectuellement aux hommes, mais aussi les races... ce qu'on appelle aujourd'hui les non-blancs, quoi. Enfin, les non-européens. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est... Je ne sais pas, en fait, ce qui est pire. Est-ce qu'entre cette moralisation rétrospective de Darwin, où il y a aussi tout un discours qui est notamment tenu par Patrick Thore, un darwinien français que je n'apprécie que peu, qui en fait est dans l'excès inverse, en disant « mais non, vous n'avez pas compris, Darwin était vraiment en avant sur son temps, vraiment, il était super, super tolérant et tout », alors qu'en fait, non, quoi. Voilà, c'était un homme, pour le coup, là-dessus, sur le sexe et la race, il était vraiment un homme de son temps, donc on peut dire malheureusement ou pas, mais le fait est qu'il n'était pas du tout en avance sur son temps.
Mais j'ai retrouvé des extraits, et c'est toi qui me les avais envoyés. Donc issus de la lignée de l'homme, nous autres hommes civilisés, au contraire des sauvages, faisons tout notre possible pour mettre un frein au processus de l'élimination. Nous construisons des asiles pour les idiots, les estropiés et les malades. Nous instituons des lois sur les pauvres et nos médecins déploient toute leur habileté pour conserver la vie de chacun jusqu'au dernier moment. Ainsi, les membres faibles des sociétés civilisées propagent leur nature. Il est personne qui s'étant occupé de la reproduction des animaux domestiques doutera que cela doive être autrement nuisible pour la race de l'homme. Ça, c'est plutôt sur l'eugénisme, en fait,
tout à fait,
sur le racisme. Et alors, l'autre... Voilà, nous devons par conséquent supporter les effets indubitablement mauvais de la survie des plus faibles et de la propagation de leur nature. Oui, en fait, c'est sur, c'est plutôt sur sur l'eugénisme, mais qui est aussi une critique qu'on lui fait.
Et c'est aussi une critique totalement légitime parce que je mentionnais tout à l'heure qu'il y a eu 6 éditions de l'Origine des espèces, donc la 6e est considérée comme la définitive. Au cours de cette rédaction et donc de ces corrections, de ces retours, etc. D'ailleurs, une parenthèse, je pense pour un traducteur, ça devait être horrible. Parce que... il était très proche des eugénistes de son temps, dont Spencer, qui a été le fondateur du peut-être pas si bien nommé darwinisme social, qui est justement l'application de la théorie de l'évolution. En fait, c'est même pas une application, c'est justement une finalisation de la théorie de l'évolution au social. C'est vraiment l'erreur fondamentale du genre la nature fait bien les choses, alors que non, la nature fait ce qu'elle peut avec ses pauvres moyens. Donc oui, ça c'est une critique aussi qui est totalement légitime, qui est le versant eugéniste de Darwin. Ça, c'est pas le versant, c'est que voilà, c'est l'intégration. Il était intégré dans les débats eugénistes, etc. Sa traductrice française Clémence Royer était une super eugéniste. Il y a des lettres de Darwin où il la célèbre, même si après il a demandé à la virer, mais il dit oui, c'est il dit en substance, c'est la femme la plus intéressante en Europe actuellement, quoi. Donc oui, ça aussi, c'est pour comprendre que le darwinisme ne passe mal parce que effectivement, il a eu pour le coup une descendance pernicieuse qui est les différents eugénismes. Et ça, c'était le sujet de mon DEA en philo, l'eugénisme. Une partie de l'eugénisme darwinien, justement, de la descendance de l'eugénisme. Et c'est sûr que, effectivement, on souligne souvent voilà, les eugénistes américains du début du XXe siècle qui ont ensuite inspiré, les nazis avec toutes les stérilisations. Voilà, on tue les malades mentaux, etc. Mais il y a aussi tout un pan eugéniste européen qui a eu la plus longue longévité, tout simplement, qui s'est fait dans des pays démocratiques, et notamment les pays scandinaves. Donc voilà, ça aussi, je trouve que de focaliser en fait la critique de l'eugénisme sur les pays, enfin comment dire, sur les pays et les époques de l'histoire qui sont effectivement horribles aux yeux de tout le monde, permet aussi de bien se dédouaner de l'eugénisme qui a eu lieu dans des pays qu'on considère encore aujourd'hui comme les proues du monde libre et justement pour prendre un terme darwinien du monde civilisé. Et ça aussi, c'est des problèmes qu'on met sous le tapis.
Mais on est d'accord que la citation « La survie du plus apte », elle n'est pas de Darwin, elle est de Spencer.
Tout à fait. De mémoire, peut-être que je me trompe, mais je pendant un temps, elle a été dans l'Origine des espèces et il l'a retoquée sur la fin. Mais effectivement, la survie du plus apte, c'est Spencer qui lui a soufflé. Mais après, la survie du plus apte, ce n'est pas non plus la survie du meilleur. C'est sûr que le darwinisme social, c'est plus la survie du meilleur, alors que la survie du plus apte, en fait, c'est la survie du plus adapté. Et ce qui est le plus adapté à un environnement n'est pas axiologiquement le meilleur, quoi.
Mais ça, je pense que c'est un contresens qui est terrible, mais qui est complètement répandu. Tout moi, en fait... y compris parmi des gens cultivés et instruits, j'entends très souvent cette réaction hein, quand on parle de Darwin, c'est tout de suite « Ah oui, la survie du plus apte ou du plus fort, encore mieux ». Bon, ce qui montre qu'en fait, ils n'en ont jamais lu une ligne. Mais là, on reviendrait au début de notre discussion. Je trouvais très intéressant ce que tu disais sur Patrick Thore et sur le fait qu'il essaie de progressiviser la figure de Darwin, et en faisant ça finalement il cherche à montrer patte blanche hein, ou patte progressiste.
Lui aussi il fait une moralisation rétrospective.
Oui, et en fait il l'a fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que en fait il veut faire de Darwin un allié pour ses propres causes à lui, je suppose.
Bien sûr. Oui, parce qu'il est fondamentalement marxiste. Donc
c'est quand même assez. Je trouve assez frappant et je pense quand même très, très propre à notre époque qu'on ne sache pas laisser les œuvres du passé tranquilles, et simplement en les regardant et en les prenant pour ce qu'elles sont, ce qui demande déjà beaucoup de travail et de temps. pourquoi il nous faut absolument mettre notre propre empreinte, soit en tirant la signification de l'œuvre vers, justement, comme on vient de le dire, le bien, soit en lui crachant dessus pour montrer à quel point on est bon aujourd'hui. Et alors, je me demande souvent si ce n'est pas le propre d'une époque qui produit peu de choses. Alors, scientifiquement, certainement pas, hein, puisqu'on scientifiquement, on continue quand même de faire des découvertes, ou en tout cas, technologiquement, on progresse sans cesse. Hein. Mais artistiquement, littérairement, philosophiquement, je me demande parfois si toute cette énergie qu'on dépense à vouloir comme ça chicaner sur les œuvres du passé ne vient pas d'un énorme vide du présent, parce que si on avait vraiment d'autres choses à faire, on se contenterait d'abord d'étudier ces œuvres pour ce qu'elles sont, et puis on mettrait notre énergie à en créer d'autres.
Ça me paraît excessivement juste. Je suis ébahie.
Oh,
non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, j'avais jamais vu les choses comme ça, et j'ai une épiphanie là.
Bah, tu vois, je ne suis pas qu'optimiste aujourd'hui. Voilà, j'ai retrouvé ma vraie nature. Je pense que ça nous fait une bonne transition vers nos contrariétés. Alors écoute, je vais commencer. Alors la mienne est une espèce de contrariété, en même temps d'amusement, enfin c'est un... ou même de désespoir drôle. Enfin, je ne sais plus tellement comment désigner ce que je ressens là. Je voulais vous parler en fait de la journée de lutte contre la précarité menstruelle. Donc, qui a lieu en fait bien aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, hein, qui est le 28 mai. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs ont tous entendu parler de la précarité menstruelle. En fait, c'est quand même un vrai sujet. Hein. Il s'agit en fait de l'incapacité d'un certain nombre de femmes à pouvoir se procurer des protections hygiéniques. Faute de moyens financiers. Et alors aujourd'hui, des associations féministes, y compris des entreprises, là, puisqu'en l'occurrence, deux entreprises sont partenaires de cet événement, militent, hein, pour que la précarité menstruelle disparaisse, ou en tout cas diminue fortement. Alors, je suis un peu partagée, et donc ma contrariété sera également mitigée. C'est que d'un côté, j'ai bien conscience que c'est un vrai sujet, notamment dans les pays pauvres. En fait, c'est une véritable problématique dans certains pays. Et donc, voilà, là, je peux imaginer à quel point ça doit être compliqué pour certaines femmes. D'un autre côté, voilà, dans nos pays tellement développés et où les protections ne coûtent pas si cher, en tout cas beaucoup moins cher qu'un téléphone portable. Je m'interroge simplement sur ces mouvements. Et puis finalement, je dois dire que la chose qui, à chaque fois que j'en entends parler, me déstabilise le plus, c'est que nous vivons à une époque où on nous dit constamment que le fait d'être une femme, c'est une construction sociale. Voilà, qu'il n'y a pas vraiment de caractéristiques féminines essentielles, très bien, mais d'un autre côté, on nous parle tout le temps de menstruation, de sang, de corps féminin. Alors, en nous précisant aussi, et c'est là que ça devient complètement pervers, que en fait, il ne faut plus parler de femmes, mais de personnes qui ont leurs règles, puisque bon, apparemment, donc il y a aussi des transgenres, hein, qui ont leurs règles. Et qu'on ne doit pas forcément les appeler femmes parce que ce n'est pas sûr que ce sont des femmes. Enfin bref, donc ça devient très très compliqué. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'on vit dans une époque qui est dans un tel relativisme qu'elle ne sait plus du tout où elle habite. Et moi, alors mon hypothèse interprétative, c'est qu'on vit vraiment dans une époque devenue totalement postmoderne, où en fait on change de socle de référence et de valeur et d'interprétation à chaque sujet. Ce qui est en fait impossible en fait à comprendre au quotidien et auquel on peut difficilement survivre. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi, Peggy.
Je ne peux que partager ton abattement et pour y ajouter un peu, je vais t'apprendre qu'il y a certaines militantes qui disent qu'il ne faut pas dire protection hygiénique,
oui,
comme tu as dit, parce que tu vois, c'est stigmatisant parce que les règles, ce n'est pas sale.
Ah d'accord, alors il faut appeler ça comment
c'est je sais pas, périodique.
À protection périodique ou là, non, mais tu sais, moi, j'ai, il faudrait que j'aille dans un camp de rééducation woke, ouais, parce que je suis totalement très en retard quand même sur certains concepts. Merci, Becky.
Alors moi, ma contrariété est aussi un peu féminine, dans le sens où c'est une contrariété people. Donc ça vient d'un article sur Anne Sinclair qui est paru dans Paris Match dans l'édition du 27 mai au 7 juin. Donc l'actualité, c'est que Anne Sinclair sort un livre le 2 juin chez Grasset qui s'appelle Passé composé, donc qui raconte sa vie et qui revient pour la première fois, nous dit-on, sur son mariage avec DSK et les affaires du Sofitel et du Carlton. Et dans l'article donc, qui est signé par Sophie des Déserts, elle a cette phrase: avec le recul, j'ai réalisé quelle forme de dépendance me liait à Dominique. Après, il y a un journaliste qui commente, note-t-elle, convoquant l'image de sa mère fortunée mais soumise. Et donc là, c'est Anne Sinclair qui reprend. Avec lui, je reproduisais un modèle bien connu dont je n'étais, à vrai dire, pas émancipée. L'impossibilité de déplaire, la hantise du désaccord et du courroux de l'autre. On appelle cela l'emprise. Elle peut être d'ordre sexuel, intellectuel, elle était pour moi d'ordre affectif. Et d'ailleurs, justement, l'emprise, c'est le mot que Paris Match reprend en couverture, en mode raccourci, parce que la fausse citation qu'ils mettent en couverture, c'est « avec DSK, j'étais sous emprise ». Et c'est dommage, en fait, que l'article ne creuse pas ce qu'elle veut dire par là, parce que moi, je trouve ça excessivement énervant. Donc, on est bien dans une contrariété, tu vois, qu'une femme comme Sinclair, qui a quand même fait du pouvoir et de l'indépendance, son mode de vie nous resserve en fait cette vieille soupe, même pas tiède, froidasse, dégueu de l'emprise, qui n'est en fait que le mot moderne pour dire ensorcelé. Donc voilà, je sais évidemment que tout le monde reconstruit le passé à sa sauce, que évidemment les affaires du Sofitel et du Carlton, je nie pas du tout que ça a été un énorme traumatisme pour Anne Sinclair. Donc voilà, effectivement, tout le monde reconstruit le passé à sa sauce. Et même là, en parlant de Paris Match, hein, rien que pour vendre du papier, parce que quand même, la blague du « Ah, on vous présente Sinclair, que c'est la première fois qu'elle parle, j'ai jamais parlé avant de cette affaire », en fait, Sinclair elle-même, elle avait déjà fait cette blague en 2014 dans un portrait qui avait été diffusé le 22 avril 2014 sur France 2, qui s'appelle « Un jour un destin ». Et là, c'était « Elle n'a jamais parlé depuis, maintenant elle va parler ». Et elle avait aussi ce propos, voilà, elle n'a rien vu, elle a été complètement mystifiée par Strauss-Kahn. Donc voilà, je ne sais pas vraiment comment conclure cette contrariété, qui est aussi une source d'abattement, d'accablement, parce que voilà, si à la fois on nous ressort le truc de lancer ce, de voilà, que finalement même les femmes les plus comme on dit powerful pour bien parler français sont incapables de se sortir des vieux traquenards, du genre oui, en fait il y a toujours un homme qui tient les ficelles, est-ce que on revient dans le truc super trivial qui est aussi vrai, hein, que voilà, l'amour est aveugle, mais quand même c'est pas glorieux, quoi.
Et empoisonne les femmes, pour citer un bon livre.
Tout à fait.
Mais ce qui est vrai aussi, mais
bien sûr.
En même temps, c'est une femme de pouvoir, mais enfin ça dépend ce qu'on appelle le pouvoir et ça dépend ce qu'on en fait aussi. Je sais pas si c'est forcément contradictoire, en fait. On peut être une femme de pouvoir et en même temps on peut être, comme on dit, sous emprise. C'est vrai que le terme est tellement répandu maintenant.
Non mais le truc en plus, c'est que c'est complètement déresponsabilisant, quoi. Enfin, c'est le
totalement, oui.
C'est déresponsabilisant. C'est elle aussi, voilà, c'est de la moralisation rétrospective. En gros, elle se rachète une virginité, dit ah oui, j'étais pas au courant, je voyais rien et tout. Bah peut-être, en fait, mais c'est aussi un problème, je veux dire, c'est aussi un problème qu'elle n'a rien vu, quoi.
En fait, il y a une différence entre dire que j'ai été aveugle et dire j'étais sous emprise. Parce que quand on dit j'ai été aveugle, on sous-entend qu'on peut être responsable ou pas, qu'en tout cas, il y a une sorte de flou sur l'attribution de la responsabilité. Alors que dans le concept d'emprise, et je comprends tout à fait ton énervement, c'est qu'en fait, ça fait basculer l'entièreté de la responsabilité sur l'homme.
Non, mais ça fait vraiment, moi, ça me fait penser à la guerre des étoiles, tu sais, quand il y a l'empereur, justement, l'empereur, l'emprise, qui est là avec ses sortilèges, là, qui c'est une rétrogradation, quoi.
Ah oui, mais ça me fait penser qu'on n'a toujours pas fait d'émission sur les sorcières, et je pense que ce serait l'occasion de moult contrariétés.
C'est vrai.
En tout cas, c'est le moment de conclure cette première partie et de passer à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui Cécile Philippe et Nicolas Marquès de l'Institut économique Molinari. Cécile Philippe et Nicolas Marquès, bonjour.
Bonjour.
Et merci de rejoindre les Contrariantes aujourd'hui. Vous êtes respectivement la présidente et le directeur général de l'Institut économique Molinari et vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous parler de la stratégie dite « zéro Covid ». Alors avant de nous y plonger, je vais brièvement vous présenter. Vous êtes tous deux docteurs en économie et vous intervenez régulièrement dans les médias sur des questions de politique publique. Cécile Philippe, vous avez fondé l'Institut Molinari en 2003. C'est un think tank ou organisme privé de recherche baptisé du nom de l'économiste et journaliste franco-belge libéral Gustave de Molinari. Votre institut promeut la liberté et la responsabilité économique, mais aussi l'approche économique dans l'analyse des politiques publiques. Vous plaidez en faveur d'une diminution de la fiscalité et des réglementations. Et vous avez pris position récemment pour la nécessité d'une réforme des retraites, bien que différente de celle proposée par le gouvernement, la baisse des impôts de production. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que vous vous êtes fait une spécialité de déchiffrer les données parfois outrageusement fausses publiées par certains organismes, comme une ONG qu'on ne citera pas, sur la fiscalité ou les inégalités. Alors comme je le mentionnais à l'instant, vous êtes ici pour discuter avec nous de la stratégie zéro Covid, qui est une stratégie radicale d'élimination du virus qui a profondément changé nos vies depuis plus d'un an. C'est un nom que l'on a peu entendu dans les médias français alors qu'il fait l'objet de nombreuses discussions entre chercheurs du monde entier et a inspiré la politique sanitaire de quelques pays. Alors pour commencer, j'aimerais bien savoir quand vous avez commencé à vous intéresser à l'épidémie de Covid-19 et pourquoi ?
Alors, je vais peut-être prendre tout de suite la parole. Il se trouve qu'on s'est intéressé au sujet au tout début, avant même que la France décide de confiner sa population. Donc, ça nous ramène en mars 2020. Nous regardons ce qui se passe en Chine, évidemment, le confinement de Wuhan, et puis surtout l'Italie. Le cas de l'Italie nous met dans un émoi assez certain. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est moi là, qui décide de me lancer dans le sujet. Je me permets de citer quand même cet article extrêmement important qu'a publié le Point, qui est en fait une interview de Nassim Taleb, Nicolas Nassim Taleb, cet expert du risque, et en particulier du risque systémique, et qui était intitulé « Face à cette crise, en gros, il faut être paranoïaque ». Et c'est tout à fait en conformité avec ce qu'il écrit par ailleurs, mais ça a immédiatement attiré mon attention et on a commencé à s'intéresser au sujet. Alors initialement, et à considérer que le confinement était probablement absolument nécessaire au vu de ce qui s'était passé en Chine, puis en Italie, et effectivement, c'est ensuite ce qui s'est passé en France. Et donc, à ce moment-là, on va aborder les choses du point de vue économique, comme nous savons le faire, et en pensant immédiatement, avec Nicolas, la façon dont on peut imaginer les moyens économiques de gérer une crise sanitaire. Et à ce moment-là, on se heurte déjà à des difficultés parce que dans notre entourage, et y compris dans les médias, nous sommes économistes et a priori, nous ne pouvons pas parler de santé. Or, les économistes de la santé, ça existe, hein, évidemment. Mais il y a à ce moment-là comme une sorte de d'effroi ou de paralysie dans les différentes professions qui vont faire qu'on va penser le problème soit en tant que médecin avec les questions de risque sanitaire, soit en tant qu'économiste avec le risque du confinement et donc le risque économique, le coût que cela va représenter. Et donc on l'envisage immédiatement comme comment minimiser le coût économique. Et de l'autre côté, comment minimiser le coût humain. Mais il n'y a pas de rencontre entre les deux. Et c'est vrai que c'est un élément qui va beaucoup animer nos discussions au sein de l'Institut, de constater cette impossibilité de penser les problèmes ensemble. Mais bon, nous, de notre point de vue, on considère qu'il faut absolument les réfléchir ensemble. Et donc, on va écrire sur les stratégies de test, sur les masques, sur comment on peut, face à une crise de ce type, faire les bons investissements. Et donc, on va expliquer que même payer des masques à 3 euros pièce, en soi, c'est rien quand par ailleurs, en fait, on a une économie qui est complètement fermée et qui nous coûte plusieurs milliards par semaine. Et on va l'expliquer autour de nous parce qu'effectivement, on en est à faire des comptes d'apothicaire. Quand l'Allemagne paye cash, c'est masques, ce qu'elle a raison de faire, puisque ces moyens de protection sont aussi des moyens de pouvoir reprendre, en tout cas à ce moment-là, puisque nous sommes confinés, de reprendre certaines activités économiques. Et donc, on va aborder les questions de santé, les lits, la gestion du système santé, l'absence d'une conception privée et publique de la santé, puisque pour rappel, hein, au tout début, on a quand même eu ce scandale de penser que seuls les hôpitaux publics peuvent accueillir des individus dans leurs enceintes, alors qu'évidemment, en France, on a une très très grande offre privée de soins. Pareil pour les laboratoires, il faut rappeler qu'au début, les tests PCR qui permettent de détecter la maladie, la présence ou pas du virus, mais sont inexistants en France. Et puis ça va monter progressivement en puissance. C'est d'ailleurs un très très bel exemple, je dirais, pour le cas de la France, d'une formidable montée en puissance de la capacité de test qui a pratiquement été portée par les laboratoires privés à partir du moment où ils ont été mis dans la boucle, qu'ils ont obtenu les autorisations nécessaires, qui ont elles aussi mis du temps à arriver. Ça a été assez extraordinaire, puisqu'on se retrouve au début avec à peine quelques milliers de tests en mars, et puis septembre, on est à 1,5 million hein, de tests par semaine. Donc très belle montée en puissance. Donc voilà, au début, on aborde la question comme ça, et c'est vrai qu'on va évoluer parce qu'on se rend compte que même si c'est bien organisé, les meilleurs systèmes de santé du monde, même celui que nous avons en France, qui n'est quand même pas le pire, les labos qui se mettent en ordre de marche, eh bien finalement, ils se font submerger lorsque les contaminations augmentent. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, ça nous interroge. Et de façon concomitante, on découvre à ce moment-là que la stratégie que nous menons dans les pays occidentaux principalement n'est pas la seule stratégie employée dans le monde. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on réalise qu'il y a une autre stratégie qui s'appelle la stratégie d'élimination ou zéro Covid qui remporte un résultat, semble-t-il, extrêmement performant.
Alors, vous l'avez rapidement mentionné, effectivement, on peut croire que c'est un sujet qui diverge a priori des préoccupations strictement économiques. Pourquoi est-ce que vous l'avez inclus dans votre thème de travail ?
Parce qu'en fait, l'économie, c'est profondément lié à la société. En économie, on a par exemple un auteur comme Gary Becker qui explique la notion de capital humain. Et dans le capital humain, il y a la santé et l'éducation. Si on veut une économie prospère, une économie qui se développe, il faut des individus en bonne santé, ça c'est un béaba. Et en plus, dans nos pays occidentaux, on est très liés, on est très interconnectés, on est très ouverts. On est dans des économies où les gens vont d'un pays à un autre, pour des raisons touristiques, pour des raisons professionnelles. On est dans des économies de division du travail, on est dans des économies d'échange. Et la résurgence d'une grande pandémie de ce type interpelle notre mode de fonctionnement. Elle est à la fois elle est un risque, hein, et dans tous les risques, il y a l'opportunité d'avoir une courbe d'apprentissage plus ou moins élevée pour apprendre à les surmonter. Et donc, c'était vraiment un sujet économique fondamental.
Alors, venons-en au cœur du sujet. Qu'est-ce que la stratégie zéro Covid ?
La stratégie zéro Covid, c'est l'idée de ne pas laisser prendre la maladie. C'est l'idée de la bloquer le plus rapidement possible. Pour prendre une image, c'est l'idée de contrer un feu le plus rapidement possible. Si vous avez un feu dans un site de production, par exemple dans un atelier, vous allez essayer de l'arrêter le plus rapidement possible pour qu'il ne prenne pas et n'atteigne pas les stocks et n'atteigne pas les autres sites de production, voire toute la zone industrielle. Donc on agit direct pour bloquer la maladie, pour bloquer sa diffusion. C'est ce qui a été fait dans les pays du type Corée du Sud, qu'on a regardé très tôt. avec un modèle qui est difficilement transposable chez nous, parce qu'en Corée du Sud, ils ont décidé d'utiliser tout un appareil de suivi de leur population, avec toute une série d'applications, des recoupements entre les données bancaires, entre les données de mobilité, pour monitorer pour les gens, on pourrait même dire pour les traquer et remonter les chaînes de contamination. Mais on a très vite trouvé l'expérience néo-zélandaise et australienne très intéressante, parce que là, ils n'ont pas du tout utilisé ces outils de suivi slash de flicage des populations. Ils ont procédé avec un environnement juridique qui est assez proche du nôtre. Hein. Ce sont des pays de tradition anglo-saxonne, des pays du Commonwealth. Ils ont déployé une stratégie en fait, de zonage en cherchant à identifier les zones où la maladie n'était pas là, à protéger ces zones-là pour éviter qu'elles rentrent dans ces territoires en question, et identifier les zones où la maladie était présente pour bloquer la mobilité et mettre tous les moyens pour la faire disparaître.
Alors j'ai envie de compléter par rapport à ce que vient de dire Nicolas, c'est que cette stratégie d'élimination, elle est différente de la stratégie que nous menons dans les pays occidentaux, qu'on appelle la stratégie d'atténuation, parce qu'il y a vraiment un objectif dramatiquement ou véritablement différent. Dans nos pays, nous n'avons pas eu l'ambition d'éliminer le virus. Nous avons considéré qu'il est possible de vivre avec et qu'on va faire, une sorte de veille qui vise à éviter la saturation des hôpitaux et de nos systèmes de santé. Donc lorsque les contaminations s'emballent, eh bien, il faut durcir les mesures de restriction. Et puis lorsqu'elles sont relativement bien contenues, on peut desserrer les taux et reprendre, entre guillemets, nos vies économiques et sociales. La stratégie d'élimination, qui est donc le deuxième type de stratégie qui peut être mise en œuvre face à une pandémie, fait un pari complètement différent. C'est celui de dire on ne peut pas vivre avec ce virus, parce que sinon on ne pourra jamais reprendre des vies normales, parce que le virus a une dynamique telle qu'il n'est pas possible d'envisager de revenir en fait à une vie normale à un quelconque moment du futur, et par conséquent on l'empêche de se développer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait les deux stratégies utilisent le même type de mesures, type confinement, type masque si nécessaire, test, etc. Mais absolument pas dans le même timing et finalement pas du tout avec le même niveau d'effort qu'il sera nécessaire de faire pour arriver à l'objectif qui est évidemment d'empêcher les morts et de reprendre une vie économique et sociale normale. Donc c'est ça le cœur de la stratégie.
Alors c'est vrai que dit comme ça, ça peut sembler un petit peu abstrait. Est-ce que vous pourriez donner un exemple vraiment concret, peut-être en parlant d'une région ou d'une ville, et puisque vous parlez de timing, un exemple qui montrerait bien justement comment les événements s'enchaînent et à quel rythme ?
Bon, absolument. Comparons la France et la Nouvelle-Zélande. Donc déjà, une différence initiale, c'est que nous, en France, nous regardons la Chine puis l'Italie et nous attendons avant de réagir. On réagit vraiment une fois que les hôpitaux sont saturés et que les morts s'accumulent. Okay, et on va faire un confinement qui dure du 17 mars jusqu'au 12 mai à peu près. La Nouvelle-Zélande, qui est donc pas loin de la Chine, observe ce qui se passe à Wuhan, détecte les premiers cas sur son territoire et confine pratiquement immédiatement après l'apparition des premiers cas. Ils vont confiner pour 7 semaines. Ils auraient pu confiner 5 semaines. Ils vont finalement décider de confiner 7 semaines. La grande différence entre nos deux pays, c'est que la Nouvelle-Zélande n'a jamais eu de deuxième ni de troisième vague. La France a eu sa première vague, a mal déconfiné, a dû subir une deuxième vague, puis une troisième vague. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si on aura ou pas une quatrième vague. Pourquoi Pourquoi cette dynamique complètement différente entre les deux pays? C'est que finalement, la Nouvelle-Zélande, d'une certaine façon, a investi dans son premier confinement. Ils ont fait un confinement dur, comme la France. Seulement, ils ont éliminé le virus. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais perdu la main sur les contaminations. Nous, quand on déconfine le 12 mai, si mes souvenirs sont bons, nous n'avons pas les capacités de faire les tests. 700 000 tests sont promis, ils ne seront faits que début septembre. Donc nous n'avons pas les tests, nous n'avons pas le traçage. Nicolas aime souvent répéter qu'aujourd'hui, quand on a un cas Covid, l'assurance maladie est capable de détecter deux cas contacts. Les chiffres sont complètement différents. En Asie, c'est souvent plusieurs centaines de personnes autour d'un cas Covid quand il survient. Mais évidemment, ils en sont capables, puisqu'ils ont tellement peu de cas que quand ils en ont, ils mettent des moyens énormes, mais exactement comme des pompiers se précipitent sur le début d'un incendie pour l'éteindre dès qu'il se propage. On n'attend pas qu'il ait atteint tout le quartier pour agir. Et donc nous, on va rater complètement notre déconfinement, alors qu'il y avait des bonnes idées comme la territorialisation. Et ça, c'est un élément clé de la réussite de la stratégie zéro Covid, qui permet de largement diminuer les efforts nécessaires dans la lutte contre le virus. C'est que vous zonez, vous organisez un zonage de votre territoire. Le Portugal l'a fait pour sa vague de début janvier. Vous zonez votre territoire, si bien que lorsque vous détectez un nouveau cas, vous n'avez à fermer ou à confiner que cette zone limitée. Vous ne confinez pas l'ensemble du territoire et vous ne le confinez évidemment pas pendant 5 semaines. Ça va être ce qu'on appelle maintenant, il y a cette notion qui s'est développée de snap lockdown. C'est eux qui l'ont développée, puisqu'ils se retrouvent dans des situations où ils vont confiner 2 jours, 5 jours. Le temps, en fait, de comprendre et de tester et tracer toutes les personnes qui sont autour des cas qui ont pu être trouvés. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont en plein dedans, en plein dans le suivi de cette stratégie, puisque Victoria est confinée pour quelques jours là en Australie, parce qu'ils ont eu un échappement dans leurs hôtels quarantaine. Mais ça y est, ils ont, en l'espace de 24 heures, ils ont été en mesure de remonter les chaînes de contamination, de comprendre où la personne avait pu contracter le virus, en l'occurrence dans un hôtel quarantaine. Donc une fois qu'ils ont fait toute leur enquête et qu'ils savent exactement où sont les cas, etc., et bien ils rouvrent l'économie, ils revivent, enfin la société, enfin pas l'économie, mais la société dans son ensemble, et ils peuvent vivre relativement normalement sans circulation du virus sur leur territoire. Ce qui a, et je pense qu'on va y revenir, un impact économique majeur et qui explique que ces pays ont des performances économiques bien meilleures que celles de nos pays occidentaux, avec un bilan humain qui est extraordinaire, en fait, hein, tout simplement.
Alors, vous avez cité plusieurs pays hein, qui ont mis en œuvre cette stratégie. Il me semble aussi qu'un certain nombre de chercheurs dans le monde entier y travaillent. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces réseaux ?
Donc en France, il y a un certain nombre de personnes qui s'y intéressent actuellement. Donc, parmi les économistes, vous avez Philippe Aguillon, Patrick Artus, qui se sont très clairement positionnés favorablement pour la stratégie d'élimination. Vous avez aussi des économistes que nous ne connaissions pas à l'origine, mais donc l'un est au CNRS et l'autre à Paris-Dauphine. C'est Miguel Oulu Barton et Barry Pradelski. Ils ont fait un travail extrêmement pertinent sur cette fameuse stratégie de zonage, le Green Zone, qui d'ailleurs a été repris hein, au niveau européen. Vous savez, toutes ces choses que maintenant, avec lesquelles les gens sont relativement familiers, c'est-à-dire la zone verte, la zone orange, la zone rouge. Et ça aussi, ça permet de comprendre ce qu'est la stratégie d'élimination, puisque nous, dans la stratégie d'atténuation, nous confinons quand c'est rouge, alors que dans la stratégie d'élimination, on protège les zones vertes. Donc, vous voyez, c'est une disposition mentale qui est tout à fait, qui est tout à fait différente. Donc, ça, c'est pour le côté économiste. Du côté santé, vous avez un certain nombre de personnes qui sont favorables à cette stratégie. Vous avez Karine Lacombe, vous avez Antoine Flahaut. Des personnes comme Arnaud Fontanet ne sont pas favorables à la stratégie d'élimination, mais à celle d'un retour au moins de 5000 cas par jour, parce que dans ces cas-là, on peut les suivre. Et au niveau mondial, eh bien, vous avez des groupes zéro Covid qui se sont créés dans un très grand nombre de pays. J'ai envie de citer surtout le endcoronavirus.org. Donc c'est un site internet maintenant qui existe et qui surveille toutes les stratégies poursuivies dans les différents pays du monde et qui est capable d'actualiser le nombre de contaminations et là où il se trouve en termes de propagation du virus. C'est été créé par Yanir Bariam, qui est un grand expert des systèmes complexes et qui s'est entouré aujourd'hui d'un très, très, très grand nombre d'experts, de scientifiques dans tous les domaines. Vous voyez, nous, on a rejoint leur groupe en tant qu'économistes, mais évidemment, vous avez des virologues, des experts comme lui des systèmes complexes. Vous avez Nassim Taleb qui en fait partie. C'est quand même un grand nombre de... Enfin, c'est assez dynamique et il y a quand même beaucoup de gens qui s'activent autour de cette stratégie.
Sur le côté revers de la médaille de la stratégie justement zéro Covid, est-ce qu'elle n'implique pas des atteintes aux droits fondamentaux des citoyens ? Par exemple, aujourd'hui, il y a des citoyens australiens qui se trouvent en Inde et qui sont bloqués et qui ne peuvent pas retourner en Australie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vu de chez nous, on présente souvent la stratégie zéro Covid comme étant une stratégie très, très restrictive. Mais quand on regarde les données, c'est eux, in fine, qui ont fait le moins d'efforts. C'est eux, in fine, qui ont eu le moins d'obligations réglementaires. Ils n'ont pas été parqués chez eux. On ne leur a pas forcé à fermer les restaurants pendant des mois. Hein. Dans les 6 derniers mois, si vous voulez manger français, vous pouviez manger français en Australie. Les restaurants français étaient ouverts. Les restaurants français étaient ouverts en Nouvelle-Zélande. Et il y avait plus de restaurants français, en fait, ouverts à l'étranger que sur le territoire. Alors, c'est vrai qu'il y a des désagréments. Ils bloquent la mobilité entrante et sortante à certaines périodes. Ils la ralentissent à d'autres avec des quarantaines quand on re-rentre dans le territoire. Mais au global, c'est eux qui ont vécu beaucoup plus librement que nous dans les derniers mois. Alors certains parlent souvent de la Corée du Sud, hein, qui a une tradition beaucoup moins libérale que la nôtre. C'est un libéralisme économique en termes de liberté publique, c'est très très encadré. Mais quand on regarde l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on a affaire à des pays qui sont... des fervents défenseurs de la liberté qui sont toujours en tête des classements de liberté économique, de liberté individuelle. Je pense notamment au classement annuel fait par l'Institut Cato et l'Institut Fraser au Canada, qui montre toujours que ces pays sont des modèles de respect des libertés.
Ils sont toujours dans les... Ils caracolent dans ces fameux indicateurs de liberté, toujours dans les 5 premiers. Et c'est vrai qu'on a chez nous, toujours eu tendance à focaliser sur l'exemple pays que vous signalez, de ces personnes qui, pour rentrer chez elles, peuvent se retrouver en difficulté ou dans l'obligation de pratiquer des quarantaines. C'est effectivement le prix à payer pour pouvoir bénéficier de toutes ces autres libertés. Et d'ailleurs, nous allons publier sur ce sujet dans les prochaines semaines. Et j'ai envie de dire, s'il y a vraiment un trade-off à faire, c'est celui-là. Mais il ne faudrait pas croire que ce trade-off, il se fait de façon extrêmement défavorable pour les Australiens et les Néo-Zélandais et puis pas pour les Français, parce que comme on le voit dans l'indicateur de l'université d'Oxford qui a concoté ce Stringency Index sur lequel nous avons focalisé pour notre prochaine étude, eh bien on voit très bien que nos pays occidentaux qui faisons la stratégie d'atténuation, nous sommes aussi contraints très régulièrement, voire de façon permanente, à limiter la mobilité internationale aussi, sous une forme ou sous une autre, et ça se voit très bien dans ces fameux indicateurs. Donc, c'est pas comme si nous étions totalement libres et eux ne l'étaient pas du tout. Il est clair qu'ils sont plus stricts que nous, mais après, effectivement, sur le territoire, vous pouvez vivre normalement. Et c'est pour ça que, on n'a pas cité le chiffre, mais il faut quand même bien réaliser que par rapport au zéro Covid, la France, c'est 42 fois plus de décès et c'est un recul du PIB 5 fois plus élevé. Donc ça traduit aussi cette possibilité qu'ont les Néo-Zélandais ou les Australiens ou même les Coréens de pouvoir vaquer à leurs occupations. Donc effectivement, ils peuvent moins voyager aujourd'hui à l'étranger, mais comme j'aime bien... C'est un détour de production qu'ils sont en train de réaliser. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas abandonné cette idée de restaurer à terme la mobilité, évidemment pas. Ils sont, comme on le disait, très favorables aux libertés. Seulement, ils ont compris qu'il fallait faire un détour. Et pour pouvoir restaurer à terme une mobilité internationale en sécurité, eh bien, il faut faire ce détour de production. Et régulièrement... Ils ont été capables, notamment entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de réintroduire des couloirs de mobilité. Et de temps en temps, ils sont restaurés, puis supprimés quand de nouveau il y a une circulation. Mais on voit bien qu'il y a cette détermination à pouvoir revenir à ces échanges, ces mobilités individuelles, parce que là, on ne parle pas de la mobilité des produits, etc., qui, elle, ne s'est pas interrompue. Mais effectivement, c'est le détour un peu obligé pour réussir sur le plan humain et économique.
Et c'est vrai que ça renvoie sur les biais de fixation et les biais cognitifs, parce que finalement, les données sont claires et les vies comparées sont claires. Nous, dans nos pays européens, ça fait un an qu'on alterne des mesures de stop and go avec des confinements très restrictifs, des attestations dans tous les sens, des limitations de sortie. Par une mesure incroyable, on a l'impression... Certains disent « Oh, mais c'est plus dur en Australie et Nouvelle-Zélande ». Mais c'est l'inverse. Eux sont libres. Eux organisent des concerts avec des dizaines de milliers de personnes depuis des semaines. Eux ont gardé leur restaurant ouvert tout le temps. Eux ont leur musée ouvert tout le temps. Eux ont leur boîte de nuit ouverte tout le temps. Eux arrivent à bouger contrairement à nous. Et sur tous les plans.
Et ils n'ont pas les décès. Ils n'ont pas les morts. Quoi. Ils n'ont pas la mortalité que nous avons. Ce qui est quand même un élément que je veux rappeler. Parce qu'il semblerait que nous nous soyons habitués dans nos pays à un avion qui explose par jour en termes de mortalité, mais de mon point de vue, ce n'est pas acceptable non plus. Donc voilà, on se retrouve quand même face à deux modèles dans lesquels il y a moins de restrictions de liberté publique, moins de déclin économique, moins de décès versus d'autres pays qui finalement acceptent les décès, acceptent le déclin plus ou moins, certains s'en sortent mieux que d'autres, et acceptent aussi la diminution de leur liberté individuelle.
Et est-ce que tous les pays pourraient mettre en œuvre cette stratégie? Parce qu'il y a peut-être des facteurs géographiques qui entre en compte, par exemple, le fait que pour certains des pays que vous avez cités, il s'agit d'îles pour lesquelles il est plus simple de fermer efficacement les frontières.
Oui, alors en fait, là aussi, c'est un vrai biais cognitif, selon nous. On va comparer trois îles comparables qui ont la même tradition anglo-saxonne. On va prendre l'Angleterre, on va prendre l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc ce sont toutes des îles. Elles sont toutes insérées dans un espace économique. Elles ont la même tradition juridique, hein, anglo-saxonne, Commonwealth. Celles d'Océanie ont regardé ce qui s'était fait en Chine. Et donc finalement, elles ont un recul de l'économie 6 fois moins prononcé que la Grande-Bretagne. Et elles ont 45 fois moins de morts que la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, plus éloignée de la Chine, a traité ça de façon assez classique. Et donc à la fois les morts et à la fois le recul de l'économie. Et concrètement, alors de temps en temps, on nous dit « Oui, mais les îles d'Océanie sont plus isolées. » C'est pas vrai, hein, économiquement parlant. Ce sont des îles qui ressemblent tout à fait à la Grande-Bretagne. Il y a des aéroports, les gens y vont, les gens en partent. Il y a du tourisme qui est significatif. Il y a une ouverture commerciale qui est significative. Donc on a bel et bien un exemple qui montre l'importance de la stratégie. Selon qu'on cherche à supprimer le virus pour pouvoir recouvrer sa liberté économique et sociale, ou qu'on cherche à l'atténuer pour préserver l'hôpital, on a finalement des résultats qui sont radicalement différents.
Oui, parce que ce qu'on voit quand même, c'est que les efforts et les restrictions qui ont été imposées, par exemple, en France, sont énormes et elles ont été globalement respectées. Ce qui veut dire que nous, le critère qui nous semble le plus pertinent aujourd'hui pour expliquer les différences de stratégie, c'est avant tout une détermination politique ou pas, inspirée de ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que là, de ce point de vue-là, il semblerait quand même qu'il se soit passé un phénomène de mimétisme, puisqu'on a vu d'un côté en Asie un type de stratégie se développer beaucoup plus vers l'élimination, alors que chez nous, on est parti dans un modèle de pandémie grippale qui décrit exactement ce que nous faisons là au quotidien, qui consiste à trouver la bonne mesure de restriction pour limiter le nombre de cas suffisamment longtemps pour permettre au mieux les échanges économiques et sociaux. Sauf que, et ça c'est un argument économique important qui probablement explique le succès des pays d'Asie, parce que donc là on a parlé que des 3 pays auxquels nous pouvons nous comparer, mais il faut quand même savoir que d'autres pays d'Asie ont un essor économique majeur au moment où nous parlons, alors que nous, l'INSEE vient de réviser ses chiffres et au premier trimestre 2021, on a un recul de PIB de 0,1 et pas une croissance.
L'Europe et les États-Unis n'ont manifestement pas choisi cette stratégie. Pourquoi, à votre avis, et qu'est-ce que vous pensez de ce choix ou de ce non-choix, d'ailleurs ?
Alors, c'est surprenant parce qu'au début, il y avait toute une série de très, très bons papiers faits par le FMI, faits par la Banque mondiale, faits par McKinsey, qui disaient « Attention, c'est majeur. Pour nous, qui sommes des économies ouvertes, on a vraiment une menace. Pour la division du travail, pour l'ouverture des économies, on a une menace avec cette pandémie et il faut la casser tout de suite pour limiter les dégâts. Il est possible qu'on n'ait pas été aidé en raison de la confiance qu'on a dans nos systèmes de santé, parce que clairement, on a des infrastructures de santé en Europe et aux États-Unis qui sont de très très bonne qualité. On a une industrie de la recherche qui nous a laissé penser qu'on arriverait à trouver des traitements dans une première phase, et puis des vaccins dans une deuxième phase. Et c'est vrai qu'on avait aussi les moyens, et on s'est très vite axé sur l'augmentation des capacités dans tous les domaines, pour avoir des masques, pour avoir des tests, pour avoir des lits. On a même parlé de pousser les murs d'hôpital. L'aspect « on a les moyens » permettait de relativiser dans une certaine mesure l'épidémie. Quand on regarde par exemple l'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique se sont dit « on n'a pas de moyens ouais. ». On n'a pas de moyens, on n'aura pas de moyens rapidement, parce que ils n'existent pas sur place parce qu'on n'est pas sûr qu'on sera aidé. Et ils ont fait la méthode traditionnelle qu'ils utilisent par exemple contre Ebola, qui est du porte-à-porte, parce que la dernière grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui devait faire des millions de morts selon les prévisions les plus pessimistes, on a fait quelques milliers, parce qu'ils savent faire du porte-à-porte, ils savent isoler les malades, pour éviter qu'ils contaminent leur famille, qu'ils contaminent leurs proches.
C'est-à-dire du porte-à-porte, c'est qu'ils vont voir les familles pour leur dire de s'isoler ou...
Les médecins dans les villages africains ont pris leur thermomètre, hein, puisque Ebola se caractérise par des fièvres, et ils sont allés ausculter les gens à leur domicile pour détecter les malades et les isoler. Et ils ont fait ça à tous les niveaux, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la stratégie d'élimination, c'est celle qui nous a permis de ne pas avoir une épidémie qui se répande. On la doit à ces médecins africains qui, sachant qu'ils n'avaient aucun moyen, de toute façon, hein, de traiter une épidémie d'envergure, eh bien, on fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ce fameux triptyque-là. Tester, tracer, isoler, avec les moyens qu'ils avaient.
Et souvenez-vous, au début, on nous disait que ça sera un bain de sang en Afrique. Mm-hmm. Et clairement, il y a des endroits où l'épidémie, dans des grands centres urbains, s'est propagée avec une mortalité plus significative que ce que montrent les statistiques qui sont parfois lacunaires. Mais au niveau global, avec peu de moyens, ces gens-là ont réussi à construire une stratégie pragmatique, alors que nous, dans les pays occidentaux, on a toujours été dans l'attente de moyens. Souvenez-vous, on nous a dit, un jour on aura des masques et on pourra recouvrer nos vies normales. Après on nous a dit, un jour on aura des tests et on pourra recouvrer nos vies normales. Après on nous a dit, un jour on aura un traitement et on pourra recouvrer nos vies normales. Après on nous a dit, un jour on aura un vaccin et on pourra recouvrer nos vies normales. Et maintenant on nous dit, un jour on aura le troisième booster et ça fait un an et demi que ça dure. Et ça renvoie à l'absence de pragmatisme quand on est un peu riche et un peu enfant gâté. Parfois, on attend le nouveau gadget et on passe à côté des solutions simples.
Ouais. Ça nous a vraiment fait penser à une sorte de paradoxe de la richesse qui nous a conduit finalement à accepter plus de morts. Hein. Et on était obligés de se faire cette réflexion que si nous avions eu le double ou le triple des capacités d'accueil dans les hôpitaux, on les aurait remplies. Et c'est presque tragique de dire ça, parce que ça veut dire que globalement, on a des technologies et on a des capacités que nous n'avons pas utilisées avec
À bon escient.
Et si on veut parler de la France, nous, ça ne nous étonne pas complètement parce que on le voit dans d'autres domaines de nos vies, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse des retraites. On a tendance à penser qu'il suffit parfois de jeter de l'argent sur un problème et qu'il va se résoudre. Et en fait, non. C'est pas comme ça que les choses se passent. Nicolas me parlait de cette image il y a quelques heures. Elle me disait, ouais, en fait, finalement, on a géré l'épidémie comme si c'était une grève. Mais ça n'a rien à... Mais c'est vrai, en fait, c'est extrêmement pertinent comme image parce qu'il y a cette idée que la grève, c'est un coût. Et qu'il faut minimiser ce coût sans se poser la question de savoir... les recettes que l'on peut avoir ou pas en fonction de la diminution du coût que l'on accepte. Et tout ça, c'est cette idée de est-ce que le coût est un investissement ou est-ce que le coût ne l'est pas, c'est-à-dire que c'est vraiment une perte, en fait.
On a géré l'épidémie aussi de façon morcelée. Je vous donne une image. Quand un pompier intervient sur un feu, il éteint le feu, il le noie d'eau. Alors, d'ailleurs, c'est parfois un problème. Si votre appartement brûle à la fin, tout sera inondé. Et il surveille que le feu ne reparte pas. Et ça, c'est vrai pour les feux domestiques, les feux industriels, les feux de forêt. Et nous, à l'issue de notre premier confinement, On n'a pas fait cette surveillance-là. Pourtant, cette surveillance, elle est peu coûteuse. Elle est relativement économique. Et finalement, on a laissé repartir le feu une deuxième fois, laissé repartir le feu une troisième fois. Une autre image dans la même veine, si malheureusement vous êtes amené à faire une chimiothérapie, votre médecin, il va vérifier, avant d'arrêter la chimio, que le résultat est atteint. Et nous, avec Covid, on n'a pas respecté ce conseil-là. On a arrêté la chimio trop tôt, parce qu'elle était douloureuse. Et donc, on l'a recommencé une deuxième fois. On l'a arrêté trop tôt, parce qu'elle était douloureuse. Et donc, on l'a recommencé une troisième fois. Et finalement, on est exténué. Mmh. Et ça, ça renvoie à du calcul économique. Ouais. Parce que quand on fait un investissement, il y a un coût et il y a des résultats. Si on cherche, dans certaines situations, à minimiser le coût, sans réaliser que ça va minimiser le résultat, mmh. on passe à côté de la bonne équation. Ouais. Tous nos aînés et toute l'Europe s'est développée avec le calcul économique et qui conduisait à faire parfois des investissements colossaux. On a investi dans les chemins de fer qui sont coûteux parce qu'il y avait des résultats. On a investi dans l'aérien qui est une technique très coûteuse parce qu'il y avait des résultats. Et là, on a raisonné en France comme finalement, s'il s'agissait juste de limiter l'interruption, de limiter le coût, et sans regarder, sans veiller à la coordination des efforts pour avoir un résultat maximal, c'est-à-dire passer à autre chose à l'issue du premier confinement.
Et ça reboucle avec ce que nous disions au tout début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une réflexion des moyens économiques de gérer la crise sanitaire. Et donc, de calculer économiquement ce que peuvent rapporter les mesures. Et ce n'est pas pour dire que c'est facile, parce qu'en fait, là, on tombe dans un domaine, justement, qui touche à l'incertitude la plus totale. C'est-à-dire qu'on ne savait absolument pas quel était le profil de ce virus et à quel point il pouvait être dommageable. Cependant, on savait que, grâce à Wuhan, on pouvait avoir l'intuition que c'était extrêmement sérieux et que, compte tenu de l'hyperconnectivité de nos sociétés actuelles, le virus n'allait pas rester à Wuhan et qu'il allait se propager à une vitesse vertigineuse, ce qu'il a exactement fait. C'est cette anticipation que nous n'avons pas du tout faite et que nous payons aujourd'hui, 15 mois plus tard. Et ce qui est troublant à ce stade, c'est que 15 mois après le début de cette épidémie, il ne semble pas y avoir de courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que vous ne voyez pas dans les pays occidentaux pour le moment, en dehors de quelques pays comme l'Islande ou comme
le Canada.
Le Canada, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, mais tout le Canada atlantique fait la stratégie zéro Covid avec succès. Mais il n'y a pas véritablement de changement de stratégie parce que finalement l'argument reste identique aujourd'hui à ce qu'il était en mars 2020, c'est que c'est trop cher. Ce serait trop cher de le faire, c'est trop coûteux aujourd'hui d'envisager de faire cette stratégie d'élimination, d'autant plus que maintenant, de toute façon, on a les vaccins et que maintenant, c'est le Graal absolu, tout en minimisant les risques liés aux campagnes de vaccination mal faites et au fait de laisser les contaminations continuer à se produire, avec les variants dont on sait que certains peuvent être préoccupants.
Donc vous pensez que en fait cette stratégie n'a aucune chance d'être adoptée en France maintenant ?
Pas sûr. En fait, ce qu'on voit, disons, il y a deux grands scénarios. Le premier, c'est on arrive à vacciner assez de monde, les vaccins marchent, il n'y a pas de sujet majeur avec les variants, et on peut espérer qu'il y ait soit fini en fait. Hein.
Ouais, que ça s'éteigne ou que
ça finalement... s'éteigne, que ça devienne quelque chose d'endémique et il n'y a pas de sujet. Le deuxième, qui est une possibilité, on n'arrive pas à vacciner assez de monde parce que notamment il y a toute une partie de la population qui, pour toute une série de raisons, n'a pas envie de se faire vacciner. Les variants restent un problème. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura une courbe d'apprentissage et peut-être qu'on comprendra qu'en fait, la stratégie zéro Covid, loin d'être plus coûteuse d'un point de vue économique, loin d'être plus coûteuse d'un point de vue liberté publique, elle est moins coûteuse. Parce que finalement, elle permet de pérenniser l'effort dans le temps, d'en profiter longtemps au lieu d'en profiter peu. Elle évite de faire le yo-yo, hein, parce que depuis un an, on alterne dans des phases de, d'ouverture, de fermeture, d'ouverture, de fermeture. C'est délétère pour les individus, parce qu'on ne sait plus où on est, jusqu'à quelle heure on peut sortir dans la rue, quelle attestation il faut. Et c'est délétère pour l'économie, parce que quand on est chef d'entreprise, on a besoin de visibilité à plusieurs mois. On ne peut pas faire le yo-yo en permanence. Vous voyez là, par exemple, on a deux sujets. Comme le disait Cécile, les statistiques de croissance sont bien moins élevées que prévu. Au lieu d'être à plus 0,4, on est à moins 0,1. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Parce que tant qu'on a une circulation virale élevée, l'économie repart lentement ou pas du tout. Ouais. Et puis, on a tout qui est désorganisé. On parle des soldes en ce moment. Est-ce qu'il faut les repousser? Ça avantage certains, ça inquiète d'autres. Certains commerçants ont peur d'avoir des stocks pléthoriques. Toute l'activité est bouleversée dans nos pays parce qu'on n'a pas jugulé Covid.
Oui, ce point est intéressant parce que il y a une sorte de surprise au fait que les gens ne se sont pas précipités dans les magasins ou dans les restaurants, etc. Mais ça n'est absolument pas surprenant. C'est renseigné depuis 15 mois, ce phénomène. C'est-à-dire qu'on a les yeux souvent focalisés sur les mesures de restriction prises par nos autorités, mais l'élément, le facteur au moins aussi important, voire plus important, qui a été souligné dans tous les papiers que Nicolas mentionnait, FMI, Banque mondiale, etc., et qu'on voit aussi dans les données Google Mobilité, c'est que ce sont les gens qui se retirent volontairement de la vie en société quand le virus circule. Mais ils sont prudents, en fait. Taleb dirait qu'ils sont parano, mais ils restent chez eux. Ils n'ont pas envie d'être contaminés, ils n'ont pas envie de tomber malade. Ils ont tous entendu parler des longs Covid, ils ont tous entendu parler des services de réa saturés. Et donc, en fait, ils restent chez eux. Donc, si vous voulez un vrai rebond économique, si on veut que nos économies reprennent, il faut que les gens aient confiance. Et Peggy, vous nous demandiez précédemment pourquoi, en tant qu'économiste, on s'est intéressé à cette épidémie. Bon, bah, d'abord parce que c'est un élément crucial, mais parce qu'en fait, au cœur de l'économie, il y a cette notion de confiance. Et quand vous avez un virus qui circule, qui est suffisamment létal pour saturer vos systèmes de santé, la confiance dégringole. Et si vous voulez restaurer cette confiance, il faut que le virus soit sous contrôle. Et il faut que les gens soient convaincus qu'il est sous contrôle. Et ça, c'est crucial. Et c'est pour ça que les pays d'Asie qui pratiquent la stratégie d'élimination, eh bien, sont soit en plein essor économique, soit ont recouvré complètement leur capacité économique.
Pour finir, justement, cette stratégie d'élimination ne devient-elle pas inutile quand on a les vaccins ? Et est-ce que ça ne serait pas en fait plus simple, au fond, plus simple de vivre avec le virus, comme on entend souvent, et donc en le traitant comme la grippe ? Donc chaque année, on vaccinerait les personnes les plus vulnérables. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça, finalement, c'est ce qu'on espère tous au point où on en est. On espère que les vaccins seront suffisamment efficaces pour en fait nous libérer du virus. Mais j'ai envie de dire qu'on devrait plutôt les considérer comme une opportunité extraordinaire de parvenir à l'élimination au moindre coût. C'est un peu ce que fait Israël aujourd'hui. Israël, donc rapidement, ils ont déployé une capacité de vaccination absolument fulgurante. Mais pendant laquelle les contaminations continuaient à un rythme extrêmement important aussi. Donc ils ont confiné de façon très stricte. Et aujourd'hui, ils sont dans cette situation où la très très grande proportion de la population est vaccinée, mais ils ont fermé leurs frontières pour se protéger des variants. Parce que en fait, ils sont bien conscients que laisser les contaminations se poursuivre, c'est laisser la possibilité que des variants émergent et que cela diminue l'efficacité de leur vaccin. Donc l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui, avec des vaccins qui sont efficaces et qui sont quand même un prodige technologique auquel on pouvait même pas rêver il y a un an, devrait au contraire nous donner ce moyen, peu moins coûteux en tout cas, de se débarrasser du virus et du risque que pourraient présenter les variants. Nous, ce que nous pensons aussi, c'est qu'il est possible que cette pandémie ne soit pas la dernière, et on espère qu'évidemment, si prochaine il y a, nous l'aborderons différemment de ce que nous avons pu faire à ce jour dans les pays occidentaux.
Pour compléter sur les vaccins, ce qu'on voit, c'est qu'ils marchent. Ils fonctionnent bien. Les personnes vaccinées attrapent moins souvent la maladie, bien moins souvent la maladie. On voit très bien dans les données françaises, les données de contamination, les personnes les plus âgées, qui sont les plus vaccinées, attrapent bien moins fréquemment la Covid depuis quelques semaines, quelques mois. Pour autant, il faut faire attention à ne pas s'emballer, hein, parce qu'on n'a pas de preuves concrètes, on n'a pas d'expérience avec du recul qui nous montre que le vaccin suffit à lui tout seul à bloquer la maladie. Au Chili, où il y avait une couverture vaccinale significative, la maladie est repartie. Aux Seychelles, où la couverture vaccinale était très significative, là aussi. Et dans des pays du type Grande-Bretagne ou Israël, où la maladie a été jugulée, il y a eu beaucoup de vaccinations, mais il y a eu aussi des mesures de couvre-feu et de restrictions de mobilité très strictes. Et donc, il est encore tôt pour dire le vaccin, ça marchera. Ça marchera lui tout seul. Le sujet des variants ne sera pas un problème.
En tout cas, ce n'est pas le calcul d'Israël, par exemple, à ce stade. Eux, sans se dire à la poursuite de la stratégie d'élimination, ils ne considèrent pas que les vaccins puissent, à eux tout seuls, assurer l'objectif de revivre normalement. À ce stade, le pays pratique, en fait, les restrictions de mobilité qui sont pratiquées dans des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie.
Et quand on écoute Boris Johnson ou les déclarations israéliennes, ils sont très clairs. Hein. Ils disent, à ce stade, la décrue de la maladie, la décrue des contaminations, c'est avant tout les mesures de restriction de mobilité qu'on a faites. Il est encore trop tôt pour dire que c'est le vaccin et que ça sera durable.
Nous allons conclure cette discussion passionnante sur ce constat, alors je ne dirais pas optimiste, mais ni pessimiste non plus. Hein. Cécile, Philippe et Nicolas Marquez, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette discussion sur la stratégie zéro Covid.
Merci à vous.
Et nous retrouvons nos auditeurs dans 2 semaines pour la prochaine émission.
C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Le Point.